France Musique.
And already at the age of three, it was discovered that he had absolute pitch. When such gifts are matched with musical intelligence and a fortunate physical endowment, there may emerge a musician of some stature.
The movement isn't the way the camera picks it up. The camera is a close-up.
Who is the boss? The soloist or the conductor?
Et bienvenue à tous. Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième émission consacrée au pianiste canadien Glenn Gould. Après un premier épisode centré sur la prime jeunesse de cet artiste hors pair, de sa passion pour les animaux de compagnie, son admiration pour son aîné Malcolm Troup, et enfin un certain absentéisme plus ou moins assumé tout au long de sa scolarité, nous nous penchons aujourd'hui sur ce grand monolithe qu'est l'intégrale de ses enregistrements de Bach. Des enregistrements qui se répartissent sur près de 30 ans de carrière, nous verrons que certains sont étroitement liés à l'histoire de plusieurs pianos, dont les fameux CD-174 et CD-318, sortis des usines de Steinway, des instruments dont beaucoup ont débattu la sonorité. À tout de suite. Glenn Gould et Jean-Sébastien Bach, une histoire d'amour qui a duré plus de 30 ans sur scène et qui tient en pas moins d'une petite quarantaine de CD, plusieurs films, même des émissions de radio qui s'y rapportent. Je vous propose de commencer cette exploration en 1959 avec une œuvre qu'on associe très naturellement à Glenn Gould. Il s'agit de la seconde partita de Bach, celle en ut mineur. On l'aperçoit notamment dans un des films qui lui est consacré, entamé fougueusement les premières mesures de cette partita, assis les jambes croisées sur son tabouret, tellement épris de cette musique qu'il la chantonne aussi fort qu'il la joue et que tout son corps semble parcouru de tics expressifs. On écoute tout de suite la Symphonia, puis on sautera directement au Capriccio, sixième moment de cette partita.
Thank you.
Nous écoutions Glenn Gould dans la Sinfonia et le Capriccio de la seconde partita de Bach, un court extrait de l'intégrale des partitas qu'il a donc enregistré. Et on reconnaît déjà là une patte sonore très particulière qui est autant le fait du jeu de l'artiste que des pianos qu'il choisissait. En l'occurrence, deux pianos principaux et un troisième piano plus tardif. Il y a toujours eu chez Glenn Gould une recherche, une quête d'un certain son qu'il avait en tête et dont il essayait par tous les moyens de se rapprocher. Pendant de nombreuses années, à l'époque de ses tout premiers disques, il examine des centaines d'instruments sans en trouver un seul qui semble répondre à ses attentes. Un premier instrument, cependant, se démarque à partir de 1955, année où il découvre le piano numéroté CD-174 dans les locaux de la compagnie Steinway. L'amour dure un temps, jusqu'au drame. Un jour, le CD-174 est victime d'une chute. Les dommages sont irrémédiables. Revient alors une période de recherche où parallèlement, Glenn s'essaye au CD-205 et CD-90 qui lui plaisent un temps, mais dont finalement il trouve la mécanique trop rigide. Petite parenthèse, le nom de ces pianos peut être compris ainsi. La lettre C désigne qu'il s'agit d'un instrument d'exception parmi les meilleurs à sortir de l'atelier Steinway à Astoria, dans le quartier Queens de New York. Les C étaient réservés à l'usage exclusif des artistes Steinway. Et le D est simplement le modèle. Le Steinway, c'est le grand queue de concert, celui qui fait 2,74 m. Et le numéro, par exemple 318, ce n'est pas exactement le numéro de série, mais juste un numéro donné à l'atelier uniquement pour ces instruments d'exception. Fin de la parenthèse. Et c'est finalement en 1960 que Glenn rencontre par hasard dans l'auditorium d'Eaton le Steinway numéroté CD-318. On raconte qu'à l'instant même où il commence à le jouer, il reconnaît l'instrument qu'il a toujours cherché. C'est le coup de foudre absolu. Et plus tard de cette relation, il parlera de son histoire d'amour à trois pattes. Une histoire avec un instrument déjà objectivement vieux et abîmé, mais selon les mots du pianiste qui possédait le son le plus translucide qu'un piano puisse offrir. Et là, ce qui devait arriver, arriva, le drame de nouveau. L'instrument subit également des dégâts irréparables après encore une chute. Et finalement, dans les dernières années, ce n'est plus à Steinway mais à Yamaha qu'il fera confiance. Et contrairement à une croyance assez répandue selon laquelle le son très particulier de Gould serait le fait d'un seul instrument Steinway hors norme, en réalité, il y a donc eu beaucoup plus qu'un unique instrument. Et le fameux enregistrement de 1981, la seconde version des variations Goldberg, sans doute la plus connue, n'a pas été enregistrée sur un Steinway mais en réalité sur Yamaha. Je vous propose de retrouver ce son bien reconnaissable de Glenn Gould le temps de cette toccata en ré majeur BWV 912, enregistrée en 1979 à l'auditorium d'Eaton. Écoutez bien les ornements et les arpèges, toutes ces petites notes qu'il tourne et retourne et graine de manière très personnelle dans son interprétation. Thank you.
Thank you.
La toccata en ré majeur BWV 912 de Jean-Sébastien Bach. On l'écoutait en entier par Glenn Gould dans cet album de son intégrale paru en 1980 et on savoure avec délice le doublement du tempo à quelques mesures de la fin où Glenn Gould n'édulcore rien du tout, il n'arrondit pas les angles mais respecte à la lettre le rythme et le tempo qu'il s'est imposé. Il est intéressant aussi de noter tous les petits partis pris dans l'ornementation. Cette manière de jouer avec toute sa liberté dans l'interprétation. Par exemple, beaucoup de notes marquées comme des accords, donc normalement jouées toutes en même temps, sont égrenées, sont arpégées par le pianiste, alors que la partition ne le propose pas de manière littérale. Et qui plus est, au lieu de les égrener de manière similaire, par le haut ou par le bas, la manière d'aborder ces accords alterne au fil de la partition. On a l'impression que ça suit quelque chose de très intuitif et en même temps d'assez équilibré. Finalement, cela se rapproche en certains aspects des interprétations historiquement informées, donc c'est souvent sur clavecin. D'ailleurs, on n'en a pas encore vraiment parlé, mais il y a vraiment une approche interprétative de Glenn Gould tout à fait singulière. Une approche très rythmique, avec une quasi-absence totale de pédale forte, cette pédale qui retient les sons, et puis ce côté très inflexible dans le tempo, surtout dans les sections rapides. Des changements de dynamique qui se font par paliers, par créneaux et non pas de manière continue, et beaucoup de caractéristiques qu'on prête de nos jours assez exclusivement à Glenn Gould. On lui attribue assez volontiers la paternité de ce style de jeu pour Bach, et en réalité, ce n'est pas le seul, ni tout à fait le premier, à avoir approché Bach de cette manière. Une pianiste, Rosaline Turek, née en 1914 et décédée plus tard que Gould en 2003, est souvent décrite comme la pionnière du genre, la première à jouer Bach de cette manière. Avant même de goûter un peu au clavier bien tempéré de Bach par Glenn Gould, je vous propose d'en écouter un court extrait, la fugue en ut mineur du premier livre interprétée par Rosaline Turek. Nous sommes en 1952, donc quelques années encore avant les premiers enregistrements de Bach par Glenn Gould. Turek en 1952, pionnière de cette approche pointilliste de Bach. On écoutait sa fugue en ut mineur du premier livre du clavier bien tempéré. Et tout de suite, écoutons à présent, 10 ans plus tard, en 1963, Glenn Gould dans le même livre du clavier bien tempéré. Thank you. fugue numéro 3 en ut dièse majeur du premier livre du clavier bien tempéré. On est toujours dans notre exploration du répertoire Bach par Glenn Gould.
Les grands interprètes. Julien Han. France Musique.
Et une exploration du répertoire qui également, comme nous l'avons vu, une exploration des possibilités des instruments Steinway. Tout au long de sa carrière, Glenn Gould n'a pas cessé d'être extrêmement demandeur. La compagnie Steinway a, de longues années durant, payé à grands frais le transport de ses pianos quatre coins du monde, jusque dans ses chambres d'hôtel, pour que le pianiste soit à l'aise. Il avait aussi des demandes parfois un peu farfelues. Par exemple, il voulait absolument des interstices plus larges entre les touches blanches, de manière à ce qu'il puisse mimer le geste du vibrato sur la touche et la faire vibrer de gauche à droite lorsqu'il avait le doigt dessus. Les fabricants Steinway disaient que c'était évidemment impossible, que tous leurs pianos étaient construits selon des standards stricts. Jusqu'au jour où Glenn Gould jeta donc son dévolu sur son premier amour pianistique, le fameux CD-174. Et donc il affirmait avec certitude que les trous étaient plus larges sur le piano et que donc ça lui convenait très bien. Les personnes de Steinway lui répondaient que c'était évidemment impossible, mais il insistait tellement qu'ils ont fini par prendre les mesures du piano et par se rendre compte que Glenn Gould avait raison et que le clavier de ce piano-là avait bien un demi-pouce de plus en largeur que les claviers habituels et que cela lui permettait donc de mimer un vibrato avec son doigt. On retourne à l'auditorium d'Eton où ont été enregistrés tant de disques de Gould, cette fois-ci en 1977 à l'occasion de son intégrale des suites anglaises. Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir les petites danses qui concluent la deuxième suite anglaise en la mineur, les deux bourrées et la gigue.
Thank you.
trois dernières danses de la seconde suite anglaise de Jean-Sébastien Bach en la mineure par Glenn Gould. Alors une chose qu'on ne s'imagine pas forcément en écoutant des interprétations aussi polissées, aussi inflexibles sur le tempo, même aussi précises donc sur l'ornementation, eh bien c'est que la vie personnelle de Glenn Gould était loin d'être aussi rangée. On aurait pu s'attendre à quelqu'un de maniaque, à quelqu'un qui veut que chaque chose soit rangée à sa place. Eh bien, en réalité, c'était tout le contraire. En 1959, quand Glenn quitte la maison familiale, il se trouve un joli 6 pièces dans un quartier résidentiel assez calme de Toronto. Glenn Gould n'a jamais été très bon pour le ménage ou pour la décoration d'intérieur. Et les rares personnes qui ont eu la chance de visiter son appartement se rappellent du désordre qu'ils y ont vu. Alors il y a de très vieux meubles laissés par les précédents locataires, des piles de papier partout, des bibelots, des objets hétéroclites dispersés dans le moindre recoin. Régulièrement, il faisait appel à des femmes de ménage, mais les unes après les autres, elles déclaraient rapidement forfait. Et quelques amis se rappelaient également de cette vue offrir un café instantané préparé avec l'eau chaude directement du robinet et puis toujours les mêmes biscuits dont il raffolait, des biscuits à l'arrowroot ou en français marrante. Il en rapportait et mâchonnait ça pendant ses longues sessions d'enregistrement. Et enfin, je vous propose donc de clore ce tour d'horizon des interprétations Bach de Glenn Gould, non pas avec les Goldberg, nous allons y consacrer spécifiquement notre toute dernière émission de ce vendredi 13 août, mais avec l'enregistrement du 5e concerto pour clavier orchestre de Bach, donc c'est celui en fa mineur. Nous sommes alors en 1958 à New York, dans les studios de la 30e rue. Les musiciens du Columbia Symphony Orchestra sont sous la direction de Vladimir Goldschmann.
Thank you.
Glenn Gould sous la direction de Vladimir Goldschmann avec le Columbia Symphony Orchestra dans ce cinquième concerto pour clavier de Bach, un enregistrement de 1958 à New York. Et pour finir, une dernière petite perle extraite de notre alpha et oméga du clavier, le bien tempéré prélude numéro 10 en mi mineur. Et c'est avec ce dixième prélude en mi mineur du clavier bien tempéré que nous concluons ce deuxième volet des cinq émissions que nous consacrons cette semaine au pianiste Glenn Gould. Après ce tour d'horizon de ses interprétations de Bach et de ses pianos favoris, nous allons nous intéresser demain à ses lectures d'autres compositeurs pour lesquels Gould n'était pas toujours le plus connu ou reconnu. Beethoven, Brahms, Mozart, mais aussi Scarlatti, Haydn et même Prokofiev. Pour l'heure, je remercie l'équipe qui m'a aidé dans la réalisation de cette émission. David Travailleur, Dorothée Goll, Zaviato et Titon Labarre. Une émission à réécouter et à podcaster sur francemusique.fr ou sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.